8h46 sur Europe 1, le club de la presse qui se souvient qu'il y a un peu plus de 2 ans, à la sortie du premier confinement, Emmanuel Macron promettait le retour des jours heureux. Eh bien, à la place, mercredi dernier, il annonçait à des Français encore massivement en vacances, hein, la fin de l'abondance, la bamboche s'est terminée, après un été marqué par les événements climatiques extrêmes. Alors ça a choqué les Français, hein, cette météo, ces incendies, cette canicule, cette sécheresse. Malgré tout, la question que ça pose, est-ce que nous sommes prêts à changer? Est-ce que le temps des efforts et des sacrifices est venu. Pour qui d'ailleurs les sacrifices? Bonjour Charlotte Dornelas.
Bonjour Dimitri.
Journaliste à Valeurs Actuelles. Bah vous étiez en vacances, vous, un petit verre de rosé à la main quand Emmanuel Macron annonçait la fin de l'abondance. Bonjour Carole Barjon.
Bonjour.
Grand reporter à l'Obs. Alors voilà, la question, je vais faire mon cynique. Y a-t-il de la tactique politique, pensez-vous, Carole Barjon, dans cette déclaration fracassante d'Emmanuel Macron à propos de la fin de l'abondance? Je m'explique. Comment on surmonte le traumatisme de la taxe carbone? Comment on fait passer aux Français le message de la nécessité de se chauffer moins, peut-être l'hiver prochain, sans se prendre le peuple en boomerang dans le visage, finalement? C'est un peu ça la question que pose Emmanuel Macron.
Oui, et moi je crois qu'il a fait ses annonces effectivement de manière... tout à fait délibéré pour nous faire comprendre à tous qu'il allait falloir faire des efforts, que le temps de la sobriété, si on a bien compris, est venu. Ce qu'avait déjà dit, il faut le rappeler, avant l'été, je crois que c'était dans une interview, enfin une tribune au Journal du Dimanche, les trois grands énergéticiens français qui avaient dit...
Voilà,
c'était déjà, si vous voulez... Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette tribune, elle avait été plus ou moins suscitée ou recommandée. Elle a eu l'aval de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement qui vient de loin. Enfin, c'est vraiment une préparation des esprits qui vient de loin. Et Emmanuel Macron l'a fait de manière plus tonitruante, on va dire, sur la fin de l'abondance et de l'insouciance. Mmh. Et c'est pour ça que quand Elisabeth Borne, on dit beaucoup qu'elle a voulu rassurer un petit peu les Français dans une interview hier aux Parisiens.
Oui. En disant, on va vous protéger, je ne laisserai pas prix s'enflammer. Quel pouvoir à la Première ministre pour bloquer les prix de l'énergie?
On va amortir les hausses de prix, etc. Ouais. Moi, je crois que ce sont de petits pansements, mais qui ne doivent pas faire oublier le message essentiel du président de la République.
Alors justement, ce message, c'est préparer à un effort national, Charlotte
Dandelas. En fait, il y a trois sujets d'étonnement, on va dire, devant cette phrase. Le premier, c'est vis-à-vis d'Emmanuel Macron lui-même, sa personnalité. Il est élu la première fois, il y a 6 ans, il dénonce les patientrismes, le déclinisme de ses adversaires dans la sphère politique et lui dit je suis le candidat de l'espoir, tout est à refaire, on va y arriver, etc. Or, quand vous expliquez que ça va mal, c'est précisément avec une vision d'espoir derrière pour changer quelque chose. Et dans votre question initiale, il y avait quand même cette question, pourquoi ou pour qui sont ses efforts? Et cette réponse-là, on l'a pas très clairement depuis quelques mois. On a compris au début qu'il y avait la guerre en Ukraine qui a mobilisé, on va dire, plus l'émotion vis-à-vis des Ukrainiens eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on sait pas très bien où on en est. Ensuite, il y a un étonnement, on va dire, plus sur le domaine de l'écologie, où Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, mais beaucoup de gens dans la sphère politique reprochaient précisément aux écolos depuis des années revendiquer, on va dire, la sobriété contre l'innovation technologique. Et là, on voit tout à coup le camp du progrès, de la technologie basculer elle-même dans la revendication.
Mais c'est pas quelque chose qui vous a surpris dans la polémique sur les jets privés qui fait écho à cette déclaration sur la fin de l'abondance. On a l'impression d'un gouvernement, d'un Clément Beaune qui peut être en franc-tireur ou avec l'aval du président de la République. Bah, quand même, s'engage dans une sorte d'anticapitalisme punitif, c'est-à-dire interdisons les jets privés, ça fera passer la pilule à tous les pauvres qui derrière repaieront leur facture d'électricité 3 fois plus chère. Enfin, c'est peut-être d'un cynisme terrible ce que je dis, mais le calcul politique vous paraît-il tenir la route?
Non mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que d'ailleurs on pourrait étendre au-delà des jets, parce que les jets ça pose une question, c'est plus une question me semble-t-il de moralité personnelle, de la manière de vivre, qu'une gestion politique. C'est un peu facile, c'est un genre de lutte des classes redécorée vers écolo, mais même plus largement, on vous dit c'est la fin de l'abondance. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, on parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Je pense qu'il n'a pas très bien compris où on était, beaucoup de Français. Donc c'est beaucoup plus large que ça. C'est, est-ce que notre mode de vie matérialiste, on va dire, de ces dernières décennies, est-ce que c'est ça qu'on veut remettre en cause? Mais alors là, c'est une question qui est beaucoup plus philosophique qu'économique, oui. Enfin, plus large qu'économique seulement. Ou est-ce que on se sert des riches pour s'en sortir à bon compte, quoi?
Oui, Carole Barjon, c'est vrai que le fait de l'abondance n'est pas vécu par tous les Français, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Alors juste un petit mot sur les jets privés quand même. Je crois que Clément Beaune s'est avancé un peu tout seul. Il a voulu réagir à la proposition de Julien Bayou, le secrétaire national des Verts, mais en réalité, Macron n'a pas du tout apprécié. Je rappelle que hier...
Mais on voit qu'il y a un débat au sein du gouvernement sur cette question.
Oui, Gabriel Attal a quand même dit hier...
De même que sur la taxation des super profits.
Gabriel Attal a quand même dit hier qu'il ne fallait pas prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, ce qui était quand même une manière de renvoyer Beaune dans ses... dans ses fauteuils. La vraie question, c'est les super profits, à mon avis. Parce que ça, d'abord, Elisabeth Borne ne l'a pas exclu. Même si... derrière, il y a tout un discours sur on va pas, ce gouvernement, la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, c'est les baisses d'impôts, oui. Et on va pas donc remettre des impôts supplémentaires.
Alors, question, c'est quoi les super profits? À partir de quand une entreprise entre-t-elle dans la catégorie des super profits? Parce que sont visés dans cette idée.
Les pétroliers, en gros.
Les pétroliers, bon. CMA-CGM, le transporteur aussi, qui affiche des chiffres d'affaires records, cette année, mais il n'y a pas qu'eux qui ont fait de bonnes années.
Prenez, non, c'est vrai. C'est vrai.
Sanofi a fait une excellente année aussi.
C'est vrai, mais par exemple en Italie, ce sont les pétroliers qui ont été taxés. Voilà. Donc ça aussi, si vous voulez, ça peut être aussi une manière de, je ne sais pas ce que déclarera Elisabeth Borne devant le MEDEF aujourd'hui, ça peut aussi être une manière, de compenser par avance des mesures qui seront sacrificielles. Ouais. Parce que il est absolument évident qu'il y aura des mesures sacrificielles. Bah on ne sait pas lesquelles. Il faudrait quand même que Macron, une fois qu'il a dit c'est la fin de l'abondance,
Malgré tout, on est quand même surpris, Carole Barjon, parce que regardez, c'est pas la fin de l'abondance de liquidité. Que fait le gouvernement depuis plus de 2 ans? C'est désensibiliser le corps social au coût de la crise en finançant le pouvoir d'achat. Et Geoffroy Roux de Bézieux, dans son interview au Figaro, le rappelle ce matin. Il dit « Nous devons absolument revenir dans l'épure d'un déficit inférieur à 3% du PIB, dont on est extrêmement loin. »
Justement, on peut se demander si ces annonces de Macron, enfin ce message plutôt que des annonces, n'annonce pas en fait la fin du quoi qu'il en coûte.
Ça fait 3 fois ou 4 fois qu'on l'annonce, la fin du quoi qu'il en coûte, ceci dit.
C'est la même question sur les super profits. Moi, j'ai pas de problème du tout à poser la question de la taxation des super profits en soi. Simplement, on a l'impression que c'est pareil. C'est une phrase qui va combler, on va dire, le vide de la déclaration initiale. Et on nous dit, on va taxer les super profits. On sait que depuis des années, le problème, c'est que taxer les super profits, les super profits partent au moment où on veut les taxer, et donc on n'y arrive plus. Et donc, à la fin, les seuls qui sont réellement taxés, c'est en effet les petites et les moyennes entreprises qui, elles, croulent sous les taxes bien réelles et qui dépassent les déclarations. Donc, on ne comprend pas, et ça rejoint la question, en effet, du quoi qu'il en coûte et de la distribution qui, par ailleurs, se poursuit. On se dit, en fait, il y a une obsession depuis un an, c'est la question du pouvoir d'achat qu'on ne se pose pas en soi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est nécessaire? Est-ce qu'individuellement, on doit se poser la question de, en effet, notre pays n'est plus aussi riche qu'avant, en effet, il y a un déficit terrible, en effet, il y a une crise, en effet, nous nous sommes lancés dans une guerre qui a des conséquences. Est-ce que individuellement, les Français, démocratiquement, on pourrait dire, sont d'accord pour tout ça? La question ne leur est pas posée. On fait toutes ces choses-là et ensuite on dit on va distribuer de l'argent partout et après on nous dit c'est la fin de l'abondance. Hein, pardon, mais l'incohérence, elle est inouïe, quoi. C'est impossible de s'y retrouver.
Bien sûr, mais on peut se demander si aussi cette entr'ouverture de porte par Elisabeth Borne sur la taxation des super profits, c'est quand même aussi une manière d'inciter les entreprises à redistribuer. Elle l'a d'ailleurs dit, il y a les prix, la prime Macron et on peut la tripler. C'est aussi une manière de leur dire peut-être il faut augmenter les salaires, parce que la vraie question, c'est celle du pouvoir d'achat des Français.
Ça passe aussi
par une augmentation des salaires. On avait bien vu ce qui s'était passé dans la restauration, où, après des années où tous ces gens qui travaillaient dans des conditions difficiles étaient, au fond, très mal payés, les restaurateurs ont fini par comprendre que, oui, il fallait avoir des salaires attractifs, parce que sinon, il n'y avait plus de personnel, comme nous l'avons tous constaté, je crois, cet été... dans les restaurants et les hôtels.
Il y a une vraie question salariale en France, mais c'est vrai que l'équation fin de l'abondance, des sacrifices importants auxquels dont on peut se demander si les Français sont prêts à les réaliser, sont prêts à les accomplir. On voit la relation des Français au travail aujourd'hui. Hein,
C'est exactement ce que j'allais vous dire en vous écoutant. Je me suis dit, dans le fond, le vrai sujet, c'est la question du travail. C'est la question du rapport que nous avons au travail que nous faisons. C'est la question du rapport aussi que l'État ou les employeurs, de manière générale, se font du travail qui leur est rendu. C'est-à-dire à la fois la question des salaires. En effet, tout travail mérite salaire. Bon, c'est la base, certes, mais un salaire décent. On pourrait aussi parler de la question des professeurs
tout
en ce moment.
Tout salaire mérite travail aussi.
Tout salaire. Et voilà. Et à l'inverse, tout salaire mérite travail.
Le père de Pierre Gattaz.
Mais en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a un rapport aussi à la question. On voit la pénurie. C'est pour ça que j'y pensais en vous écoutant. La pénurie est vraie dans la restauration. Elle est vraie partout. Et à la fin de l'année, on a vu métier après métier, ça n'est plus possible. Donc il y a effectivement cette question derrière. C'est une question de société extrêmement profonde. Derrière l'abondance et la petite phrase de communication, c'est compliqué comme question quand même.
Merci à toutes les deux. C'était un plaisir de vous recevoir pour ce jour de rentrée. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Barjon de l'Obs. On se demandera à la rentrée sociale, y aura-t-il de la conflictualité? Geoffroy Roux de Bézieux que j'ai cité il y a quelques minutes, n'y croit pas. Lui pense que la rentrée va être plutôt
calme. Ça dépend des syndicats.
Et pas
de Jean-Luc Mélenchon.
Exactement. Il n'aura pas toutes les réponses. Il est 8h58 sur Europe 1. Dans un instant, vous allez